vivons ici, hein, d'être en communion avec le ciel, d'être là, prendre ce pain, ce vin, nous rappelons l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et c'est vrai que cela n'a aussi de valeur que dans la mesure où, n'est-ce pas, nous sommes également en communion les uns avec les autres. Car en réalité, quand chaque fois que je prends le repas du Seigneur, bien sûr je me souviens de l'œuvre de Jésus-Christ, mais je me rappelle qu'il a fait de nous une grande famille autour de lui. Et il a formé ce corps et il veut que ce corps soit uni. C'est là l'un des thèmes que j'aime à rappeler à chaque fois. C'est mon thème un petit peu privilégié en moi. J'aime partager cette joie de voir l'unité de l'Église, la communion fraternelle. Parce que je crois que dans la communion fraternelle et dans l'unité de l'Église, il se passe de grandes choses. Je crois que Dieu agit dans la communion fraternelle. Dieu aime avoir ses enfants réunis et là le bénir, et là il peut produire des miracles. Eh oui, il peut produire des miracles. Et cet après-midi, il peut se faire des miracles, et il y a un miracle. Le fait que nous soyons là pour dire « Seigneur, tu m'as sauvé », mais le fait que tu sois là et que tu dises tout à l'heure « Je vais passer dans les eaux du baptême parce que Jésus m'a rencontré », c'est lié à quoi ? C'est lié au fait que, bien sûr, tu as rencontré Jésus, mais tu as vu le témoignage de ses enfants, les transformations qu'il y a eu dans leur cœur. Et à ton tour, tu as pu entrer dans cette grande famille. Et pour toi qui vas être baptisé tout à l'heure, oui, tu rentres dans cette grande famille. Et tu vas devenir membre du corps de Jésus. Tu vas former l'unité. Et dans cette unité, tu vas pouvoir à ton tour annoncer l'évangile. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est un thème que j'aime, que je privilégie assez au niveau de l'Église. Les hommes le font bien. Vous savez, ils ont de grandes aspirations, les hommes. Ils parlent d'unité sans jamais forcément la connaître. Et moi, l'autre jour, je regardais une émission. Alors, je ne sais pas si vous la connaissez. C'est Tous Ensemble. C'est une émission qui est animée donc par Marc Emmanuel. Alors, le concept de cette émission, c'est de pouvoir ainsi trouver dans une région une famille qui est dans le désarroi le plus complet, ayant acquis un bien immobilier vétuste, selon des moyens modestes, et envisageant, n'est-ce pas, le mettre en, de le restaurer. Tout à coup, dans ce processus de restauration, vient s'abattre le malheur, soit le chômage, soit la santé. Et là, eh bien, les travaux s'arrêtent et on voit cette famille dans le plus grand désarroi, dans les ruines. Et ils vivent comme ça pendant quelques semaines, des mois, peut-être des années. Et tout à coup, eh bien, les habitants font appel à ce Marc Emmanuel qui va venir et il va fédérer les esprits. Il va créer une unité autour de cette pensée. Nous allons aider ces gens. Alors, c'est là qu'il fait appel à tous ces bénévoles de la région ayant des capacités diverses dans le bâtiment, dans la décoration, étant aussi peut-être des enseignes qui pourront fournir les matériaux. Et là, donc, une solidarité est en train de se mettre en place. Tout ça pour permettre à ces gens de vivre décemment et voir à la fin tout le monde pleurer, car c'est une émission obligatoirement, si vous avez le cœur sensible, hein, c'est une émission qui est là pour faire pleurer. Hein, les larmes coulent dans les chaumières. Et là, à la fin, tout le monde dit « Oh, c'est merveilleux, c'est extraordinaire, c'est bon ça, c'est bon ». Alors, vous savez, ce concept, au fond, il n'est pas nouveau, c'est pas Marc Emmanuel qui l'a inventé. Dans l'histoire de l'univers, eh bien, un jour, des personnes se sont unies pour regarder le chaos qui était là devant eux, cette Mars informe et vide, qui était la Terre. Et ils se sont mis d'accord pour pouvoir en faire quelque chose de beau. Dans le ciel, il y avait Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et ils se sont dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour cette masse informe et vide. Il faut qu'on change ça. Et ils se sont mis d'accord. Ils se sont mis d'accord pour dire, eh bien, on va en faire des cieux. On va faire la terre. Une terre que nous pouvons admirer, des cieux que nous pouvons admirer, n'est-ce pas ? La beauté de Dieu dans son œuvre, elle est merveilleuse. On voit la grandeur de Dieu. Et vous n'êtes pas sans vous admirer les œuvres des mains de Dieu. Ces montagnes, ces lacs, ces rivières, ces canyons, ces mers, tout ça c'est l'œuvre de Dieu. Et tout ça pourquoi ? Pour que l'homme puisse habiter dans un endroit confortable. Alors cet homme, il a bénéficié de tout ce qui était le résultat d'une concertation qui s'est produite dans les cieux. Et puis, dans l'histoire de l'humanité, voilà qu'un jour, dans le ciel, à nouveau, c'est fait ce conciliabule. Il a dit, regarde les hommes qu'on a créés. Regardez. Ils sont dans le péché, dans le chaos. Ils sont là dans la désespérance. Ils traînent leur fardeau. Dans le péché, privés de la gloire de Dieu. Et là, dans son conciliabule, il a dit, qui pourra nous sauver ces personnes? Et tout d'un coup, Jésus a regardé le Père. Il a dit, c'est moi qui vais y aller. C'est moi qui vais y aller. Ah oui, Père. Tu veux, c'est vrai que dans ton plan, tu as donné ton Fils unique, mais ce n'est pas toi qui dépouille le Fils. C'est le Fils qui se dépouille lui-même et qui va chercher ses âmes. Et nous voyons que le résultat de cette disposition, c'est que Jésus aujourd'hui a créé un corps et vous êtes là, c'est l'Église. Ce corps, et nous parlions de complémentarité, eh bien effectivement, ce corps, il l'a créé, puis un jour, il a dit, il faut que je parte parce qu'il est avantageux que le Saint-Esprit vienne, parce qu'il va falloir qu'il souffle en vous pour que ce corps s'anime. Hein, de la même façon que ce corps qui avait été créé de la poussière, eh bien, a eu besoin de l'Esprit qui a soufflé en lui pour créer une créature vivante, eh bien, le corps qu'est l'Église, un jour, a eu besoin aussi de l'intervention du Saint-Esprit pour qu'il puisse se mouvoir et produire les plus beaux effets, la plus belle mission, celle d'annoncer au monde que Jésus est vraiment vivant. Alléluia, alléluia, et vous en êtes, vous les témoins, n'est-ce pas? Vous êtes bien là pour dire, oui, Jésus a fait quelque chose, le Saint-Esprit a fait quelque chose. Ce que je vois, en fait, c'est que dans la nature de Dieu, que souvent nous aimons à désigner dans l'amour, Dieu est amour, eh bien, frères et sœurs, l'unité fait partie aussi de sa nature. Sans unité, Dieu n'existe pas. Sans unité, Dieu ne peut rien faire. Et il y a eu là cette concertation avec le Fils et le Saint-Esprit. Et de la même façon, il intervient auprès des enfants de Dieu pour qu'ils soient ensemble, pour pouvoir faire que les choses bougent, avancent. Car avec son peuple uni, il peut faire quelque chose. Est-ce que vous le croyez? Sans cette unité, Dieu ne peut rien faire pour nous. Mes frères et sœurs, les deux textes que je voudrais vous proposer, justement, pour peut-être que nous puissions nous baser là sur la parole de Dieu, c'est Ecclésiaste. Donc je vous invite à lire dans Ecclésiaste au chapitre 4, verset 9, et un grand passage de l'Écriture que nous connaissons bien, celui où il est souvent pris à l'occasion des mariages, mais là, même si nous ne sommes pas dans un mariage, il a toute sa valeur. Il est dit, deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. Et puis cet autre texte, dans Matthieu 18, verset 19, « Je vous dis que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Amen. » Ces deux passages de l'Écriture, l'un de l'Ancien Testament, du Nouveau, nous montrent bien que dans toute l'histoire de son peuple, eh bien, le Seigneur fait appel à l'unité, à l'unité. Et pourquoi? Parce que, eh bien, effectivement, comme nous aimons à le dire bien souvent, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est un slogan que nous avons de beaucoup de facilité à employer. Mais nous réalisons effectivement que le Seigneur ne veut pas que ce soit simplement un slogan, mais une réalité dans le corps de Christ. Amen. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à Créteil, eh bien, il y a quelque chose qui est envisagé, ce sont ces groupes connexion qui vont nous permettre, et je le crois, nous permettre de nous connaître, de permettre de partager, de permettre de prier les uns pour les autres. Et je crois que cette œuvre, que Dieu la verra comme très bonne également. Cette création qu'il a pu faire, tout ce qu'il a pu faire, créer l'homme à son image, intervenir dans nos vies pour qu'elles soient changées, tout cela était très bon. Et je crois que nous, en nous employant à vivre l'unité, à vivre ces moments fraternels, nous rentrons dans cette volonté de Dieu où là, il pourra dire, je trouve ça très bon. Alors, vous allez peut-être me objecter, mais mon frère, quelquefois, dans l'Église, toutes les choses ne sont pas très bonnes. Il y a des choses, quelquefois, qui peuvent eh bien, être un petit peu chagrinante. Est-ce que Dieu peut dire que c'est très bon ? Et je crois qu'effectivement, on peut vivre les faiblesses de l'homme, mais nous avons parlé de la corde à trois fils. Et ce troisième fil, en ce moment, c'est, heureusement, c'est la grâce, le fil de la grâce qui supplée à nos limites, à nos manquements. Et frères et sœurs, ce que je voudrais cet après-midi justement vous présenter, c'est des unions voulues par Dieu, où à un moment donné, pour une raison qui est de l'homme, eh bien, il y a eu comme des unions. Alors, le titre à l'origine était « Des unions » en deux mots, le titre de mon message, et « Des unions » en un mot, qui montre que quelquefois, effectivement, vient s'imbriquer dans notre marche des grains de sable qui font comme si qu'il y aurait grippage dans le bon fonctionnement de l'Église et dans son évolution. Dans nos vies aussi, quelquefois, il y a des arrêts qui se produisent. Alors, j'ai pris quelques exemples et je voudrais les partager avec vous. Donc, le premier exemple, c'est Rebecca et Isaac, pour parler de communion. Communion. Et donc, cette communion, nous pourrons voir dans la disposition d'Eliezer à chercher cette épouse pour Isaac, puisqu'il a été, n'est-ce pas, invité par Abraham à faire ce voyage dans sa patrie pour aller chercher cette femme pour Isaac. Et Eliezer est vraiment là comme bien dans le questionnement. Mais franchement, comment pourrais-je trouver une femme pour mon maître Isaac ? Et il y a cette prière qu'il va formuler, n'est-ce pas ? Il demande au Seigneur de montrer, de faire des signes, d'accomplir quelques signes. Il dit, quand je verrai une jeune fille, si elle a un vase qu'elle me propose à boire et aussi à mes chameaux, et là je saurai que là je suis dans ta volonté, ta main me conduit. Et effectivement, à un moment donné, eh bien, il voit cette jeune femme arriver avec sa cruche et lui proposant à boire et lui disant « Je vais aussi en donner à tes chameaux, je vais abreuver tes chameaux. » Et il est dit qu'Eliezer était là comme surpris de voir comment Dieu avait fait réussir son voyage. La rencontre d'Isaac et Rebecca était voulue de Dieu, c'était une union vraiment voulue de Dieu, non ? Il n'y avait pas meilleure façon de prouver que effectivement Dieu voulait cette union. Eliezer était là dans le miracle de Dieu. Il voyait bien que tout avait convergé pour que ces deux êtres se rencontrent. Amen. Je bénis Dieu pour mon mariage. Je suis content de savoir que le Seigneur a conduit mon mariage. Est-ce que vous êtes toujours heureux d'avoir vécu cette rencontre avec et que votre épouse est le cadeau que Dieu vous a offert ? Ah, moi, c'est un cadeau, hein. J'espère que ça l'est aussi pour vous, les frères et sœurs. Hein ? Alors, et quand Isaac a vu cette jeune femme arriver, il s'est certainement dit, « Eh oui, c'est vraiment la volonté de Dieu, elle est tellement belle. » Mais enfin, il y avait plus que le fait qu'elle soit belle, Dieu avait conduit toutes choses. Et effectivement, elle était belle. Et puis, les jours ont été heureux, il y a eu quelques années peut-être, et puis à un moment donné, eh bien, il y a eu un événement. Un événement qui était attendu puisque Isaac était détenteur d'une promesse. Abraham lui avait dit, notre famille a été choisie pour être un grand peuple. Dieu est avec nous et tu seras le relais, je te passe le relais pour que tu portes cette promesse en toi. Et effectivement, Dieu va bénir Isaac malgré la stérilité de Rebecca puisque vous savez qu'elle était stérile. Et là, il va implorer Dieu et Dieu va le bénir. Et là, nous pourrions dire, eh ben, ça y est, l'œuvre de Dieu s'est accomplie pour lui. Et ce qui se passe, c'est que lorsque les enfants naissent, voilà le moment où, dans le couple, quelque chose se passe. Il y a comme un loupé. Ces enfants vont être l'occasion de disputes, vont être l'occasion de divisions. On sait comment, tout d'un coup, eh bien, Isaac, lui, va avoir un intérêt sur Ésaü, il va voir son fils, son aîné, costaud. Ah, c'est le costaud de la bande et c'est lui qui prendra le relais, c'est lui l'aîné, le chef de la famille. Et puis il y avait aussi cette attention particulière de Rebecca qui voyait Jacob, peut-être un peu plus maigrelé Jacob, je ne sais pas comment il était. mais il était dans les jupes de maman. Et là, eh bien, maman, c'était son petit chéri. Chacun avait son chéri. Et voyez-vous ce qui s'est passé, c'est que ces chéris ont créé eh bien, la division un petit peu dans le couple déjà. Ça ne vous est jamais arrivé d'avoir des petites tensions moi, je sais que quelquefois, les enfants, ils vont voir papa, c'est, papa, tu peux pas me donner quelque chose j'aimerais avoir ça. Ah non, 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 papa, il refuse, et, non, c'est pas possible. Alors, on va voir maman, et là, maman, tu... Et puis, on entend de l'autre côté, ah oui, oui, bah, bien sûr, bien sûr. Alors, le mari comprend pas, il va voir la maman en question, il dit, dis donc, mais je lui ai déjà dit que c'était pas possible, et toi, tu lui autorises, et tout à coup, là, on se chiffonne un petit peu. Hein, c'est vrai que ça change la vie, hein, les enfants, faut composer avec eux aussi. Mais je pense que dans la vie de Isaac et Rebecca, il y avait une autre chose aussi qui pouvait se produire, qui a fait que ça n'allait pas très bien. Il y avait une défaillance dans la communication, ce couple. Je pense que Isaac était resté sur les traditions. Voilà, c'est l'aîné. Et il n'allait pas plus loin. Oh, il venait à l'église, hein, Isaac. Hein, il priait, il était content, mais c'était bien. Il avait accompli sa mission puisque Dieu lui avait dit qu'il aurait une postérité. Ça y est, c'est fait. Le Seigneur m'a exaucé. Et puis, on voit quand même que Rebecca, elle, va avoir une attention particulière. Ses enfants, il est dit, se chamaillait déjà dans son ventre, apparemment. Alors, elle va voir l'Éternel, elle prie, elle continue la prière. Et là, le Seigneur lui révèle que le plus jeune sera le chef de l'aîné. Et elle a une révélation que Isaac n'a pas. Et je crois que ce qui se passe ici, c'est cette spiritualité à deux niveaux. Dans les foyers, quelquefois, peut se produire aussi ce phénomène. Une spiritualité à deux niveaux. Ah, le mari qui est avec moi, il n'est pas tout entier au Seigneur. L'épouse qui me suit n'est pas à la hauteur celle que j'espérais. Et tout à coup, il y a conflit. À cause de Dieu, c'est terrible d'avoir du conflit à cause de Dieu. Hein, la sœur, et on sait que les sœurs sont sensibles, et il y a plus de sœurs que de frères d'ailleurs, ça montre bien que les sœurs ont une sensibilité aux choses de Dieu que les hommes peut-être n'ont pas. Alors là, il faut l'avouer, mes frères, hein, il faut accepter ça. Et puis, peut-être que Rebecca, c'était la personne qui... Alors Isaac, réveille-toi, il faut qu'on prie, tu ne pries pas assez. Et puis elle va voir le pasteur, tu sais frère, il ne prie pas beaucoup, il ne me suit pas, et j'aimerais en faire plus pour le Seigneur. Et lui, vous avez vu les vitesses à deux niveaux, hein, les deux niveaux de spiritualité, ça crée aussi des conflits quelquefois. Hein, et je me rappelle d'ailleurs, mon père me racontait un jour, et ce n'est pas très beau, mais l'exemple est pourtant vrai, c'était un pasteur qui avait une certaine réussite à son époque, ça remonte à bien des années en arrière, un indépendant qui avait une épouse qui, effectivement, paraissait être un peu timorée dans les choses de Dieu. Elle était toujours en retrait, n'était pas très, très, très loquace. Et dans l'église, il y avait une sœur. Oh là là, avec sa liturgie, vous savez, les gestes, les expressions, tout y allait. Oh là là, elle était bien cette sœur-là. Oh là là, elle était bien cette sœur-là. Et ce qui est arrivé arriva, le malheur est arrivé. Il s'est séparé de sa femme parce que celle-ci était plus spirituelle. Ah, aïe, aïe, aïe. Lorsqu'il n'y a pas de communication dans les foyers, quand il y a les tempéraments qui l'emportent sur l'autre, lorsque l'autre veut absolument que lui comprenne et qu'elle comprenne, et les sentiments, communion, c'est une association de sentiments. Et quand il n'y a plus cette association de sentiments, eh bien, plus rien ne peut se faire. Plus rien ne peut se faire. Et vous savez comment il a fini, ce pasteur ? La Bible dans une main et le comment on appelle ça là ? Le pendule dans l'autre. C'est terrible de finir comme ça. Hein ? Et il y a des choses quelquefois qui sont terribles. Lorsqu'il y a, n'est-ce pas, des divisions dans les couples et qu'il n'y a pas ce retour... Cette volonté de rétablir la communion, eh bien, il fait naufrage. Et nous voyons que Jacob a vécu dans ce milieu et il a dû suivre les conseils de sa maman qui lui dit, tu sais, là, le vieux père, il ne voit plus grand-chose. Eh bien, il faut que la parole de Dieu s'accomplisse pour toi. On va aider Dieu. on va aider Dieu, alors tu vas feindre d'être Ésaü et hop, tu vas recevoir le droit d'aînesse, ah, le vol. Et en fait, Jacob va continuer dans cette voie. Il va toujours fuir, toujours tromper. Il va tromper son frère, il va tromper Laban, son beau-père. Et sa vie va être faite de cette petite vie de cache-cache, n'est-ce pas? Et la fin de sa vie, d'ailleurs, il le dira, ma vie a été courte et mauvaise. C'est dommage, c'est dommage. Mais la grâce dans tout ça, eh bien la grâce, un jour, elle s'est faite jour à lui. Oui, à un moment donné, le Seigneur s'est révélé à lui. Et c'est à Peniel. À Peniel où tout va pouvoir se rétablir. Il rencontre son Dieu, enfin son Dieu. Parce qu'avant, c'était le Dieu de son père, mais là, il rencontre son Dieu. Et il va falloir qu'il fasse une démarche auprès d'Ésaü. Vous savez, le chemin qui permet l'unité, c'est l'humilité. Il va falloir qu'il retourne vers Ésaü et il va rencontrer Ésaü. Et là, il va effectivement devant lui être là, humble et lui demander vraiment comme pardon. Et qu'est-ce que se fait Ésaü? Il prend dans ses bras et le bénit. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est la grâce. La grâce s'est révélée dans la démarche d'humilité de Jacob. La situation familiale ne s'est rétablie qu'à ce moment-là. Enfin, la famille pouvait se retrouver sous le regard de Dieu dans la paix. Pourquoi? Parce qu'il y avait une volonté de réparer. Et pour réparer, il faut s'humilier. C'est dans l'humilité que peut se vivre effectivement eh bien, l'unité de l'Église aussi. Amen. Alors, il y a concertation. Dieu s'est concerté. Et la concertation est nécessaire. Alors, les concertations n'ont pas toujours les mêmes aboutissements. Il y a deux disciples, comme exemple, que je voudrais vous proposer. C'était les disciples d'Emmaüs. Vous les connaissez? Ils ont entendu Jésus. Et Jésus parlait. Ils étaient au milieu des autres disciples. Le même message pour tous. Ils avaient entendu que Jésus devait mourir sur la croix. Ils savaient qu'il devrait ressusciter le troisième jour. Ils savaient que le Saint-Esprit viendrait, Jésus n'avait pas manqué d'en parler. Et puis pourtant, quand les événements se sont produits, ils n'ont rien compris. Ils sont déçus. Et ils le disent dans en marchant. Ces disciples d'Emmaüs s'entretenaient, ils disaient, mais eh ben voilà, même à ce Jésus qui se présente sur le chemin, il dit, mais tu ne sais pas ce qui s'est passé. Nous, on pensait que ce Jésus deviendrait le roi d'Israël. On pensait que tout allait être restauré, les Romains dehors, on vivrait une vie paisible, tranquille. On voyait la gloire. Et en fait, on a vu qu'il était crucifié, oui, bien sûr. Et on est déçus, ça ne s'est pas passé comme nous on voulait. Et voyez-vous, quelquefois, dans les églises, eh bien, on a des personnes qui peuvent être déçues pour des événements qui ne se sont pas produits comme ils le souhaitaient, parce que les épreuves peut-être les ont atteintes d'une façon violente et ils ne comprennent pas. Ou alors parce que eh bien, les propos des uns et des autres ne sont pas forcément ce qu'ils attendaient. Et chacun, dans son amertume, trouve une autre personne qui a là une amertume. Et là, la concertation n'a qu'un seul but, c'est de s'enfoncer dans l'amertume. Et je crois que ces deux disciples se sont retrouvés sur le même terrain, le terrain de l'amertume. Et on peut se retrouver sur le terrain de l'amertume avec quelqu'un d'autre. Et s'encourager dans ce milieu-là. Ah, tu sais ici, ah, tu sais comme ceci, ah, ça ne devrait pas se faire. Ah, puis alors il est habillé comme ci, ah, il a dit ça. Et puis là, eh bien, au lieu de rester à Jérusalem comme Jésus leur avait dit, on les voit, ils partent, ils s'éloignent de Jérusalem. La promesse, c'était qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, mais eux, ils n'avaient plus entendu, ils n'entendaient plus rien. Ils étaient dans l'amertume. C'était fini, c'était fermé. Ils étaient fermés à la grâce. Ils s'en allaient. Puis, heureusement, la corde à trois fils ne seront pas facilement. Le troisième fil, le fil de la grâce, est intervenu sur le chemin. Jésus se présente à eux. Et là, eh bien, il leur rappelle les paroles qu'il leur avait dites. Mais vous avez remarqué, eh bien, si vous vous rappelez de l'histoire, que lorsqu'ils se présentent à eux, ils ne le reconnaissent même pas. Ils n'étaient plus capables de recevoir le message ni de reconnaître Jésus. Et quelquefois, dans nos rangs, il y a des personnes, Dieu veut leur parler, mais ils ne veulent plus entendre. Ils ne savent même plus que ça vient de Dieu. Parce qu'ils se sont enfermés. Et tout à coup, il y a bien sûr quelqu'un qui les encourage. « Ouais, mais tu sais, je ne peux plus l'entendre parce qu'il m'a déçu. Ah, puis elle, et puis si on était vraiment chrétien. Ah là là là. Mais Jésus veut te faire grâce, il te rappelle que il veut te restaurer, il veut te bénir. Sors de cette paralysie de l'amertume et écoute-le. Il a de projets pour toi. Amen. Amen. Il veut te bénir absolument, même dans cette église que quelquefois où tu as vu quelques, peut-être quelques petites lacunes. Qui n'a pas de lacunes? Eh oui. Et voilà que ses disciples, eh bien, sont interpellés. Leur cœur se réchauffe. Jésus leur parle. Et ils comprennent. Et il va falloir qu'ils soient restaurés. Et pour être restaurés, il va falloir beaucoup d'humilité, encore une fois. Eh oui, ils vont faire le chemin inverse cette fois-ci. Ils vont aller vers les 120, ils vont aller à Jérusalem, ils vont retrouver la petite église. Et peut-être qu'ils se sont dit l'un et l'autre, dis donc, tu rentres le premier, j'ose pas. Parce que comment ils vont nous regarder? Comment ils, ils vont nous juger. Et puis il y en a un qui a eu le courage, il a dit, allez, on y va. Et puis ils ont été surpris. Parce qu'au lieu de les juger, eh bien... Les gens les ont accueillis, les frères et sœurs les ont accueillis. Ils ont dit, mais venez, venez, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu, mais viens donc, il y a des bénédictions pour toi. Vous savez, il y a des choses, quelquefois on croit que, je crois qu'ils pensent ça de moi, ou qu'ils disent ça de moi. Et combien de fois il y a une, malheureusement des pensées qui nous traversent l'esprit parce qu'on pense que les autres pensent que. Et tout à coup, on part dans un délire, et on s'éloigne. Et ils pensaient que les autres les méprisaient peut-être à ce moment-là. Ils se sont dit, oh, comment on va être reçus? Ils ont été reçus et ils ont bénéficié de cette bénédiction. Le Saint-Esprit est vraiment venu sur eux avec les autres. Et ils ont été les témoins, alléluia, de Jésus-Christ. Oui, oui, il y avait là de l'amertume. Et le chemin de la restauration, c'est l'humilité. La complémentarité. Ah! Et j'ai repensé à ce que David avait prêché une fois, quand j'ai réfléchi à la complémentarité, j'ai pensé à Paul et Barnabas. Est-ce que c'était voulu que Paul et Barnabas soient ensemble? C'était une volonté de Dieu que Rebecca et Isaac soient ensemble. C'était une volonté de Dieu que ces deux disciples soient unis aux 120. C'est une volonté de Dieu que Barnabas et Paul soient ensemble. D'ailleurs, la Bible nous le dit. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 13, verset 2, il dit « Mettez-moi à part à Antioche, rappelez-vous. Mettez-moi à part Saul et Barnabas. » À l'époque, c'est encore Saul, il deviendra Paul. Mais Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'était une volonté de Dieu pour que ce duo fasse ce ministère, puisse aller de ville en ville et créer des églises. Alors on connaît Paul, on l'admire, n'est-ce pas? Quel homme, hein? Et là on le voit, c'est un vrai gagneur d'âme, c'est un travailleur infatigable, très exigeant avec lui-même, mais quelquefois très exigeant avec les autres, hein? Et puis je trouve que Dieu ne s'est pas trompé, parce qu'il a mis un Barnabas, le fils d'exhortation, et lui, ce fils d'exhortation, il vient derrière Paul et il dit, allez, courage! Le Seigneur va te bénir. Paul, il fonce. Barnabas, il relève, il aide, il tend la main, il console, il encourage. Je trouve que c'est un duo extraordinaire. Alors, humainement parlant, c'est vrai, tous les séparent. Leurs caractères sont différents. Mais avec la grâce de Dieu, ils font un travail extraordinaire. Puis, à un moment donné, c'est là que vient cet élément perturbateur. Et quel est-il, Jean-Marc? Ah, Jean-Marc les a suivis quelque temps et il pensait servir le Seigneur et peut-être s'est-il fatigué. Peut-être a-t-il pu dire, je vais te servir Seigneur et quand il a vu la tâche, a-t-il été un peu impressionné et a-t-il été fatigué. Alors il les a abandonnés sur la route et puis quelque temps plus tard, on le voit réapparaître. Barnabas revient avec Jean-Marc et dit, tu sais, le gars là, qui nous a lâchés l'autre fois, il revient et... Et tu sais, il voudrait nous accompagner. Je crois qu'il peut faire quelque chose de bien avec nous. Et Paul le regarde et dit, mais attends, mon ami. Non, je ne vais pas m'encombrer d'un boulet. C'est un gars qui nous a abandonnés. Si je veux que nous foncions, on ne va pas pouvoir le faire avec lui. Et là, Barnabas va certainement argumenter. Il va dire, mais tu sais, il n'est plus le même. On a prié. Et puis, il faut espérer. Le Seigneur est bon. Il va l'aider. écoute Barnabas. Et tout à coup, la discussion a monté, s'est envenimée. Et ces deux que Dieu avait unis, voulaient unis, se sont désunis par rapport au caractère. Je ne peux pas supporter que ce gars vienne avec nous. Ah là, frères et sœurs, on l'admire, Paul, mais voilà, c'était comme ça. Et voyez-vous, ça c'est le moment où la chose craque. Alors bien sûr, Dieu a fait grâce parce que nous connaissons son œuvre. Nous savons que effectivement, il a fait un travail extraordinaire sur tout le pourtour méditerranéen, comment il a édifié des églises. Mais voyez-vous, quelque chose ne va pas. Il faut qu'il restaure quelque chose. Et je trouve qu'il a été courageux, le chemin de l'humilité. Plus tard, il va écrire à Timothée, il va dire, surtout, envoie-moi Marc, parce qu'il m'est utile pour le service. Ce gars qu'il ne voulait pas, tout à coup, à un moment donné, il dit, j'en ai besoin. Moi, je dis qu'il faut beaucoup d'humilité d'un homme comme ça. Vous savez, il a une stature, hein, Paul. Hein. Ce n'est pas n'importe qui dans l'Église. Il est reconnu, il a une autorité naturelle. Mais il sait s'humilier. Et il restaure une situation. Marc a son utilité, effectivement. Et je crois que dans l'Église, mes frères et sœurs, et fait, nous aussi, il y a peut-être des marques. Et quelquefois, dans notre façon de travailler, alors, voilà, on travaille. Mais on oublie que nous sommes tous différents et nos différences, c'est aussi notre force parce que nous sommes complémentaires. Paul et Barnabas étaient complémentaires et un jour, il a fallu que Marc vienne pour suppléer peut-être à ce qui manquait à Paul aussi. Et Paul a eu ce besoin et il a fallu qu'il tende la main à Marc. Et cet après-midi, quelquefois peut-être, nous avons des gens à côté de nous à qui nous ne tendons pas la main parce qu'il peut-être il nous semble moindre. Moins intéressant. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'ils nous semblent plus lents dans leur façon de comprendre les choses de Dieu. Parce que, ils n'ont pas les mêmes bagages, donc on ne se retrouve pas sur un terrain d'égalité pour la discussion. Peut-être les affinités ne se font pas facilement. Je pense qu'entre Paul et Marc, ça devait être difficile aussi. Et pourtant, il a tendu sa main. C'est pour ça que je veux dire cet après-midi que Dieu veut nous bénir. Mais il nous dit aussi, si vous vous accordez, si vous êtes un en moi, alors je vais pouvoir faire quelque chose. Et je crois que chacun aujourd'hui est concerné. Tous nous formons le corps de Christ et nous voulons dire, et nous voulons écouter Jésus qui nous dit, je vous dis encore que si deux s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Si nous nous accordons, si nous nous prenons les uns les autres par la main, je crois que Dieu va faire de grandes choses dans cette église. Alléluia. Est-ce que vous y croyez ? Je crois que Dieu peut faire des miracles cet après-midi. Je crois qu'il peut les faire des miracles dans les jours qui vont suivre. Parce que cette église va se lever d'un seul, comme un seul homme. Et là, la gloire de Dieu va pouvoir se manifester. Amen. On va laisser nos frères et sœurs qui vont chanter et qui ce chant correspond tout à fait à ce que nous venons de dire. Que cette unité se produise en nous. Vous ne voulez pas qu'on se lève et qu'on prie le Seigneur. Nous voulons voir, Seigneur, ton peuple uni sur cette région, sur cette ville. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà, les amis qui nous rejoignent et nous conduisent dans ce chant. Ce chant va être notre prière, si vous le voulez bien.
Rester ensemble à chaque instant, surtout ne pas nous séparer, continuer d'aller de l'avant, tous ensemble. chantons l'amour du Seigneur, l'adoration du Sauveur, tous ensemble nous accueillons l'Esprit du Seigneur, l'unité du Créateur. Dieu, elle se...